Couvrir la distance de 6000 km séparant Bruxelles à Dakar au Sénégal en vélo solaire sans consommer une goutte de pétrole. Tel était le projet de Xavier Van der Stappen, un ethnologue belge de 47 ans, fondateur de l'association Culture et Communication. Une démarche éco-citoyenne destinée à promouvoir une révolution culturelle, un changement de nos habitudes de consommation pour la réduction de notre impact sur l'environnement, le climat et notre cadre de vie. Rencontré et interviewé lors d'un salon à Saint-Étienne, pour Carbone Zéro, Xavier nous explique sa démarche et le slogan de son voyage. Penser globalement, agir localement.
Tout, je veux tout savoir.
Alors tout à propos de quoi ici?
À propos de ta présence ici, sur ce stand.
Mais pour moi c'est important de faire de la sensibilisation, de montrer que c'est possible d'avoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement, même si évidemment rajouter un véhicule sur la route c'est construire quelque chose. On ne peut pas, à moins qu'on le fasse le tour du monde à pied, on construit toujours quelque chose. L'idée c'est d'aller vers une économie de moyens, quoi, d'aller vers du moins lourd, du plus logique disons par rapport à nos ressources.
Alors, en quelques mots, présente-toi et puis explique-moi comment est né le projet. Et présenter le projet par la même occasion.
Alors, je suis ethnographe. J'ai travaillé pendant 20 ans à la valorisation des connaissances traditionnelles des Africains en matière de conservation. J'ai monté pas mal d'expositions ethnographiques pour aussi promouvoir le droit à la différence, qui est un droit qui est écrit nulle part. Donc, j'ai travaillé principalement sur des populations qui se limitaient à ce que leur terre pouvait leur offrir. C'est principalement là-dessus que j'ai travaillé. Ensuite, j'ai eu l'occasion de monter des expositions à destination de l'Europe et de l'Afrique sur des problèmes de sensibilisation environnementaux. Et j'ai constaté qu'en fait, en Afrique, les gens subissaient de plein fouet les conséquences de l'industrialisation, quoi, puisque depuis un siècle, on pollue énormément et notre rapport aux autres est entaché de ce rapport très ambigu économique de dominance au fond de 80% de la planète qui travaille pour nous et dont on prend les ressources sans qu'ils en bénéficient forcément. Donc l'idée c'est de faire des longues distances avec des engins électriques, des prototypes, et de montrer que c'est possible de se mouvoir, de faire de grandes distances avec l'électricité de préférence produite avec des panneaux photovoltaïques, et donc là j'ai 18 000 km devant moi avec un nouvel engin. Un engin qui double toutes les qualités du premier prototype qui avait été réalisé pour parcourir Dakar, Paris, Bruxelles, donc 6 000 km que j'avais parcouru en 165 heures de route. Ici l'idée c'est d'aller deux fois plus loin, deux fois plus vite. C'est un biplace, mais je me réserve une place très confortable et de la place pour mes bagages et une exposition de sensibilisation aussi, vu que je suis ici pour présenter aussi une exposition de sensibilisation qui va être présentée dans 25 pays le long de la route. Et cette exposition donne des informations sur les problèmes environnementaux, mais aussi donne des pistes, parce qu'il faut être très positif dans ces choses-là. Il ne faut pas faire peur aux gens, forcément, il faut amener des solutions. Et aussi, l'exposition essaye de promouvoir le transfert des technologies vers le sud pour que les populations du sud acquièrent leur autonomie au niveau de la production d'énergie. Parce que pour eux, le pétrole est horriblement cher, bien plus cher que pour nous. Et donc, ça pose un problème fondamental quand on sait que la plupart des capitales africaines dépendent des carburants fossiles pour la production d'électricité. C'est leur permettre de produire, de construire, d'adopter les énergies renouvelables, à leur permettre aussi de se dédouaner le plus rapidement possible du pétrole, ce qui est fondamental.
Donc pour vous, l'énergie du futur est électrique ?
Mais je pense, parce que déjà l'énergie la plus évidente, c'est l'énergie solaire. Tout vient de l'énergie solaire, évidemment. Les plantes, tout pousse, tout fonctionne grâce au soleil. C'est déjà la première énergie. Transformer les rayons du soleil en électricité, c'est ce qui me paraît le plus simple. Évidemment, le problème, c'est que dans nos sociétés ici, pour faire tourner nos économies, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a, on est équipé, on a une consommation épouvantable et on est aussi beaucoup trop lié au pétrole de nouveau. Pétrole qui pollue, qui est mauvais pour la santé, qui va augmenter de prix, bien évidemment, et qui provoque des guerres aussi. Donc c'est pas une bonne affaire.
Donc vous êtes là sur le salon, on est à Saint-Étienne, hein, à Planète Couleur, avec des drôles d'engins. Donc on a vu le premier voyage, c'était Bruxelles à Dakar, le deuxième ça va être Bruxelles à Cape Town. Seul, autonomie ?
Alors Copenhagen, Cape Town. En autonomie, je pense qu'on va atteindre une certaine autonomie, oui, parce que bon, il y a toujours la possibilité de charger les batteries sur du 220 pour avoir plus d'autonomie, mais basiquement, le véhicule avec les panneaux photovoltaïques devrait permettre de couvrir 400-450 km à la journée.
Ce qui n'était pas le cas du premier véhicule, il n'y avait pas de panneaux solaires
Non, il n'y avait pas de panneaux solaires, donc j'étais tributaire évidemment de prises électriques que je devais trouver, mais le grand avantage, c'est que mes batteries se chargeaient en une heure. Donc le temps du déjeuner, les batteries étaient pleines et je pouvais repartir.
Et là, sur le nouveau véhicule ?
Alors sur le nouveau véhicule, il y a des panneaux photovoltaïques qui devrait charger les batteries, avec lesquelles je roule. Et si je veux augmenter l'autonomie, à ce moment-là, je peux charger mes batteries le soir, soit au restaurant, à l'hôtel, peu importe. Donc c'est toujours la même chose, des batteries qui chargent en une heure. Voilà, j'ai ces deux possibilités-là. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir si rouler à l'électricité ne fait pas appel à des énergies qui ne sont pas très propres. Oui, évidemment, il y a toujours le problème du nucléaire. En France, 80% de l'électricité est produite par le nucléaire. Alors c'est un mal nécessaire, malheureusement, parce que notre consommation est très très forte. Le nucléaire, on sait très bien que ce n'est pas bon. On sait très bien qu'à l'avenir, on aura de moins en moins de moyens pour faire face au contrôle du nucléaire, à l'enfouissement des déchets comme il faut, ou au recyclage. Déjà, je pense que plus de 60% des déchets nucléaires de la France sont envoyés en Sibérie et pas traités du tout. Ils sont stockés sur des aires de parking. C'est dramatique. Donc ça, c'est vraiment catastrophique, ça. toute façon, on prend le problème à l'envers, hein, c'est que les véhicules légers, ça devrait être... Faudrait d'abord viser à faire un véhicule léger au lieu d'essayer d'électrifier une voiture d'aujourd'hui. C'est ça le souci. Enfin, je répète toujours la même chose, mais ça me paraît tellement évident après avoir un petit peu analysé le domaine, c'est que aujourd'hui on continue à vendre de la bagnole, à vendre de la voiture d'aujourd'hui, ce qui ne peut pas fonctionner. Je dis, on ne peut pas essayer de faire rouler un machin de 2 tonnes avec de l'électricité. Et pour moi, le carburant le plus évident, enfin le carburant, l'énergie la plus évidente par rapport à la mobilité du futur, c'est l'électricité. Et l'électricité, ça ne veut pas dire pour ça qu'on va devoir planter plus de centrales nucléaires. On peut diversifier aussi la source d'énergie, la source de production d'électricité. Hein. On peut aussi la fabriquer à la maison avec des panneaux photovoltaïques, avec des éoliennes de balcon si on vit en appartement, tout ça est possible. Donc, il faut aller vers de l'autonomie, et c'est ça aussi la grande, je pense, le grand enjeu de demain, c'est d'essayer d'acquérir plus d'autonomie individuellement, collectivement, de moins dépendre des marchés extérieurs. Le pétrole, c'est épouvantable comme dépendance. On voit les guerres qu'on fait, c'est épouvantable. Les États-Unis, ils ont quoi ? 8 jours de réserve. Donc c'est pas étonnant qu'ils ont des milliers d'hommes en Iran ou en Irak, pardon. Là, je faisais un lapsus, mais c'est le prochain pays sur la liste. Mais c'est normal quand on a 8 jours de réserve pour un carburant fossile qui fait fonctionner toute l'économie. On peut pas être gentil avec les autres, quoi. C'est normal qu'on soit stressé et agressif par rapport au reste du monde. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut à l'avenir, alors qu'on sait que c'est pas bon dans tous les sens? Et puis je pense aussi, les Américains sont peut-être pas encore aussi loin que nous dans ces choses-là, c'est qu'il faut d'abord se poser la question de savoir comment on va réduire la consommation d'énergie au lieu de se poser la question de savoir comment on va faire face à l'augmentation. Mais quand on parle de ces choses-là, en général, les gens pensent à des mouvements décroissants, donc ça fait assez peur, on a l'impression qu'on va retourner au Moyen-Âge. Alors que si on regarde les nouvelles technologies, par exemple l'éclairage en domotique et l'éclairage domestique LED, c'est hyper performant, ça consomme 2 fois rien, mais ce sont des produits de luxe. Et pourtant, si justement le domaine de l'éclairage à domicile s'est tourné vers le LED, c'est parce que c'est une solution réelle. Et ça coûte cher parce que malheureusement, ce n'est pas produit industriellement de manière aussi étendue que les ampoules au tungstène. C'est un peu ça.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Alors, ce que je fais là, moi, c'est grâce aux Africains que je suis là. En fait, je ne suis pas un écologiste de la première heure. Par contre, j'ai découvert les grandes disparités qu'il y a en travaillant en Afrique, en anthropologie. J'ai mené 20 d'années de recherche sur le terrain. Et je me suis rendu compte que dans les communautés où j'avais travaillé, ils subissaient des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. 3 mois de pluie, de retard dans les pluies, 1 mois de retard dans les courants marins qui leur apportent le poisson dont ils dépendent, des bouleversements climatiques très important. Et moi, j'étais fort touché par ces choses-là, parce que ces gens, au fond, ils ne demandent pas plus à la Terre que ce qu'elle peut offrir. Et au fond, eux sont assez dans le bon par rapport aux enjeux de demain. Hein, ils n'essayent pas de surexploiter leur Terre par expérience empirique. Alors, c'est vrai que leur niveau de développement n'est pas très sexy, mais est-ce que c'est pas nous qui sommes trop loin dans le développement, enfin, dans l'accumulation des choses? Est-ce que tout ça est très sain que 20% de la planète puisse accumuler autant au détriment de 80% du reste des habitants de la planète qui rament pour nourrir la machine, notre machine industrielle, nous fournir en matières premières, nous fournir en nourriture, nous fournir en tout ce qu'on peut imaginer. Et ce n'est pas franchement à leur avantage. Voilà, c'est un rapport au monde qui risque de changer aussi avec l'avènement de l'industrie, de l'économie chinoise qui, elle, est aussi quelque part peut-être un peu plus réaliste, mais qui nous fait terriblement peur parce qu'on a là des nouveaux venus dans l'économie et des nouveaux venus qu'on ne peut plus soumettre comme on veut, mais dont on profite largement. Hein, chinois à 150 euros, c'est vrai que ça peut offrir au final une voiture à 10 000 euros sur le marché, mais ce n'est pas normal que les véhicules coûtent 10 000 euros. On est face à un véhicule qui fait 1,5 tonnes, bourré de matières premières qui viennent de quelque part et qui sont transformées par des gens qui ne sont pas payés comme chez nous, les ouvriers, à 2-3 000 euros. On est loin de ça, très loin de ça. Et ça, c'est pas logique. Donc je pense qu'il faut, revenir à quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport à tout ça.
Et donc, pourquoi ici ?
Ah pardon, qu'est-ce que je fais ici ? En fait, c'est une longue histoire, mais je ne sais pas si on a le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé au Sénégal, aux enjeux environnementaux, et on m'avait demandé de monter une exposition. Oui.
C'est quoi le concept pour venir jusqu'ici ? Vous êtes venu avec la machine là qu'on voit, avec les panneaux solaires dessus ?
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas le plus gros du parcours. Hein. C'était 800 km qu'on a parcouru en une nuit blanche parce qu'il n'y avait pas, il y avait malheureusement pas assez de temps et on a beaucoup chipoté. Il y a eu pas mal de communications aussi au niveau du départ à Bruxelles, au Parlement européen, au niveau du Parlement, enfin du Sénat en Belgique, etc. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de tout mettre au point. Ceci dit, il y a notre technicien là qui est encore occupé aujourd'hui à bidouiller des choses pour éviter les courts-circuits électriques. Donc là on est on est encore en train de mettre la main à la pâte. Voilà. Mais bon, ce sont des prototypes, donc il y a toujours moyen de faire beaucoup mieux.
On parlait de l'énergie, donc le nucléaire, qui n'est pas une solution. Mais bon, il y a d'autres solutions pour produire de l'électricité en Afrique. Je ne sais pas, il y a des centrales aussi. Ou comment est produit là-bas l'énergie électrique?
Alors,
éolienne ou photovoltaïque?
Alors malheureusement, aujourd'hui, l'électricité, elle est produite... Elle est malheureusement produite par des générateurs, par des centrales thermiques. Donc on brûle du carburant fossile pour faire de l'électricité, ce qui est franchement pas logique. Mais c'est parce que, quelque part, on veut pas aider les pays africains comme on devrait le faire. Au lieu de leur envoyer des 4x4 pour équiper les ministères, au lieu de leur permettre d'installer des champs de panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, on continue à leur déverser de la technologie qu'on a envie de leur vendre. Donc on a toujours le groupe électrogène, la pompe d'irrigation qui fonctionne au mazout, alors qu'on offre parfois des pompes d'irrigation, sur des sites qui sont à 300 km de la première pompe essence. Essence que les gens n'ont même pas les moyens d'acheter. Quand vous gagnez 200 euros par mois, ce qui est déjà pas un bon salaire dans certains pays africains, et que l'essence est à 1,20 euros du litre, on fait quoi ? On fait quoi? Donc ces gens sont très imaginatifs, ils sont très bons clients pour les énergies renouvelables. Mais c'est ça que je veux dire, c'est par exemple une ville comme Dakar qui est en bord de mer, qui a du soleil, qui a la puissance de la mer, qui a des échanges de masse entre mer et terre, qui permet d'envisager de l'éolien, on ne leur fournit pas ces technologies-là. Ça pose problème, ça pose sincèrement un gros problème.
Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi est-ce que l'Afrique ne se développe pas et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à être autonomes? Pourquoi est-ce qu'ils sont dépendants à ce point de l'Occident?
Mais je pense qu'après la période coloniale, on a eu une période post-coloniale, mais qui n'a pas changé grand-chose, à part que tous ces gens à qui on avait fait la promesse en 1942-43 de devenir des Français, après la guerre, pour un effort de guerre, ces gens n'ont pas pu devenir français parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher. Imaginez toutes ces colonies qui seraient devenues françaises. Vous vous rendez compte, déjà la couleur des institutions, ce serait plutôt café au lait, ce serait plus franco-français. Est-ce que après la guerre, les gens auraient accepté ça? Je ne suis pas certain du tout. Donc De Gaulle, face à la facture sociale du coût que ça aurait représenté que tous ces Africains deviennent français, a préféré distribuer des indépendances. Et les indépendances ont été un peu plus dures avec des pays qui avaient véritablement des ressources importantes comme le pétrole en Algérie, comme d'autres pays. Mais ceci dit, voilà, ces pays sont malheureusement restés dans une domination étrangère et n'ont toujours pas acquis leur véritable indépendance. Maintenant, avec la chute du mur de Berlin, enfin bon, la fin de la guerre froide, les choses changent énormément. Les rapports sont totalement différents. Les Chinois apportent une technologie... Bon, les Chinois, on les diabolise beaucoup en Afrique, mais ils apportent une technologie beaucoup plus adaptée, comme les Indiens. Une technologie moins chère, plus adaptée au tiers-monde. Et on a privé de ça, on a privé de toute cette technologie-là et de ces prix assez abordables à cause de notre présence, à cause de notre monopole économique en Afrique, où on importait des chaussures à 20, 30, 40 euros, des chaussures impayables. Maintenant, les gens peuvent acheter de la chaussure chinoise à 2 euros. Évidemment, ça tient moins longtemps, mais au moins, ils ont l'impression d'avoir un certain pouvoir d'achat, pouvoir avoir accès à des biens, à des biens de première nécessité, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a ralenti toutes ces choses-là. L'Afrique, malheureusement, c'est le continent des matières premières. Et c'est certainement pas le continent à qui on donnera les outils que pour transformer les matières premières, parce que ça, c'est notre boulot, c'est notre business. Donc c'est clair que l'Afrique végète. L'Afrique végète, elle est parfois plongée dans des guerres parce qu'il y a un rapport très ambigu aux ressources.
Je vais revenir au voyage Bruxelles-Dakar. Est-ce que tu pourrais me donner trois adjectifs par pays en fonction de ton véhicule? Qu'est-ce que ça dégageait comme ambiance, comme atmosphère? Comment les gens perçoivent ce vélo solaire?
Alors, au Sénégal, les gens étaient fort intéressés parce que pour eux, ça peut être une solution à la mobilité du futur, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du carburant, du pétrole. Alors, ils étaient fort intéressés par ça, même s'il y a ce côté futuriste qu'ils avaient du mal à cerner. Ils comprenaient mieux qu'ici, mieux qu'en Europe, en quoi ça consiste et ce que ça leur, peut leur faire gagner comme argent, ou du moins économiser. Et ensuite, au Mauritanie, les gens étaient assez intéressés, mais pas plus que ça. En fait, les Mauritaniens sont devenus sédentaires dans les années 70 seulement, à cause de la perte de 80% de leurs troupeaux. Mais ce sont des gens qui sont équipés de 4x4 aujourd'hui, mais à la limite, reprendre leur dromadaire, ça leur pose aucun problème, parce que la plupart d'entre eux sont nés sous la tente. Donc il n'y a pas franchement de stress par rapport à l'obligation d'avoir un véhicule chez eux. Ça, c'est déjà une chose. Une autre chose, c'est que au Maroc, par exemple, bon, là, c'était déjà moins évident parce qu'ils sont déjà orientés vers l'Occident en termes de modèle économique. Et qu'on diabolise beaucoup des solutions qui sont déjà là. Par exemple, dans l'agriculture, au Maroc, les gens utilisent encore la traction animale, qui est beaucoup moins chère, beaucoup plus évidente, évidemment peut-être moins performante, mais ils arrivent à fonctionner encore comme ça, avec la traction animale. Mais c'est diabolisé, évidemment, par un État qui veut de la modernité. Donc on ne favorise pas cette solution de traction animale. Donc c'était pas franchement intéressant pour eux aussi. Bon, ils ont plutôt des véhicules de transport, des choses pour lesquelles on peut transporter énormément de choses, ce qui n'est pas le cas avec les prototypes qui sont plus aérodynamiques pour gagner évidemment en vitesse, en autonomie. En Europe, c'est devenu fort différent. Les gens trouvaient ça très anecdotique, amusant à la limite, rigolo. Mais bon, chez nous, le problème, c'est qu'il y a de la marge. On ne subit pas vraiment l'activité humaine. On n'a pas énormément à souffrir du climat, etc. Donc on n'est pas au courant des véritables enjeux qui touchent la planète, quoi. Voilà, ça c'est un peu la perception qu'il y a eu le long du voyage de ce type d'engin.
Xavier est là pour promouvoir d'autres formes de mobilité. Un message aux décideurs des pays du Sud sur l'importance de l'adoption des énergies renouvelables pour atteindre l'autonomie énergétique. Pour mieux comprendre sa démarche et avoir plus d'infos, il suffit de vous rendre sur le site www.paridakarnooil.org.